France-Amérique, un commerce équitable, une émission de Régis Debray, aujourd'hui l'automobile avec Catherine Berthaud L'Avenir. Chaque civilisation a son esprit et cet esprit dépend beaucoup de l'espace où elle est née. Chaque géographie physique, en quelque sorte, ses retombées spirituelles, si vous voulez, son imaginaire, sa métrique et ses défis. Et l'Amérique a relevé magnifiquement le défi de l'immensité, de l'open field, si vous voulez. Mais il n'y a pas qu'une différence d'échelle entre les étendues du Nouveau Monde et les territoires exigus, un peu compartimentés du Vieux Monde. Entre, disons, la Beauce et le Middle West, il y a plus qu'une différence kilométrique, il y a une différence de qualité, de sensibilité dans la manière de prendre en charge le monde extérieur, et cette manière dépend beaucoup des véhicules utilisés. Pour le dire vite, l'espace européen abrite des lieux de séjour, il est domestiqué, travaillé, quadrillé, sculpté, creusé, alors que l'espace américain est déplacement, excitation, dynamisme. Et ce n'est pas pour rien que la route est son blason. Il y a même un vertige spatial aux États-Unis. Et alors la domestication de ce vertige donne aux moyens de transport un rôle emblématique, qu'il s'agisse de la road movie jusqu'à la fusée spatiale, du cheval pour la conquête de l'Ouest jusqu'au lanceur pour la conquête de l'espace. Disons que la soif de mobilité fait corps avec l'American way of life comme elle fait corps avec le rêve américain. Il faut donc, pour mieux comprendre l'usage du monde qu'on peut faire en Europe ou en Amérique, s'interroger, puisque goûter, c'est comparer, s'interroger sur la place respective, la forme et le rôle de l'automobile, là-bas et ici. Il en va à la fois de notre vie quotidienne, de la physionomie de nos villes, mais aussi de nos attentes, de nos frustrations et même peut-être de nos appétences intimes. C'est pourquoi j'ai invité aujourd'hui Catherine Berthaud L'Avenir, professeure d'histoire culturelle, ancienne rectrice de l'Académie de Martinique et qui a écrit un très beau livre intitulé « La roue et le stylo ». Je vous disais que la civilisation américaine est mouvement et vit de mouvement et elle est membre fondatrice de la Société d'Histoire des Mobilités, ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors vous croyez peut-être, chers auditeurs, qu'on discute de bagnoles entre mecs, vous vous trompez, l'automobile ça dit beaucoup de choses sur l'âme des collectifs. Je dirais que c'est une affaire trop sérieuse pour être laissée au seul maniaque de l'Argus et des 24 heures du Mans. Alors, bonjour Catherine Berthaud L'Avenir. Bonjour. J'aimerais que l'on commence par définir l'idéal type de l'automobile ici et là et par quoi, dans nos deux continents, ils s'opposent. Est-ce qu'on peut préciser, c'est une affaire de gabarit, de changement de vitesse? Comment pourriez-vous typer, archétyper les deux types d'automobiles?
Alors, d'un côté, il y a l'automobile classique américaine, celle qui s'appelle Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick. En fait, tous des voitures, comme les Cadillac, qui sont conçues par Alfred Sloan pour General Motors. Elles ont toutes les mêmes caractéristiques, au moins dans l'âge classique. C'est des belles américaines, elles sont grandes, elles sont lourdes. Elles ont des moteurs pas très performants, elles consomment beaucoup d'essence. C'est pas grave en fait, puisque c'est un pays, les États-Unis, où il y a de l'essence à foison. Elle est à changement de vitesse automatique, ça c'est important. Elle roule dans les larges espaces américains, à une vitesse limitée, sur des routes qui ont des courbes très amples, qui sont dessinées pour la voiture, où les pentes sont assez faibles. Elle n'est pas du tout faite pour faire des créneaux au centre des villes, mais elle est faite pour se glisser souplement sur une place de parking, près d'un hypermarché. Et enfin, son intérieur est vaste. On peut y habiter le temps d'un long voyage. Et puis on peut aussi s'en servir au driving.
Alors là, vous définissez ce qu'on peut appeler l'anti-voiture européenne, comme on dit, strophe et antistrophe, n'est-ce pas? Nous, C'est toujours assez petit, n'est-ce pas? 4 chevaux, 2 chevaux, voire la coccinelle même. Apparemment, nous, nos voitures sont moins lourdes, moins grandes, consomment moins d'essence. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de la, disons, de la voiture européenne pour en quelque sorte forcer le trait ou...
Elle a un changement de vitesse manuel. Et ça, jusqu'à nos jours, c'est un dispositif que les Nord-Américains ont beaucoup de mal à maîtriser. Alors pourquoi est-ce qu'on a gardé un changement de vitesse en Europe? C'est en fait qu'on avait, dans les années 30, un idéal du conducteur comme bon conducteur. Et le changement de vitesse manuel, ça permet, sur les petites routes de montagne par exemple, de tirer soi-même le meilleur parti du moteur.
Et est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a en fait la synthèse de cette opposition entre ces deux types d'automobiles? Est-ce qu'il y a eu une interaction entre les deux profils de véhicules?
Alors, il y a un moment catastrophique dans l'histoire de la belle américaine. C'est la crise du pétrole, les deux crises du pétrole des années 70 aux États-Unis. Et là, ces grosses voitures traditionnelles deviennent soudainement économiquement pas défendables. Et les Américains vont se mettre à acheter d'abord des voitures européennes, parce qu'ils commencent à en importer. Mais on va voir que c'est difficile. Et puis surtout, ils vont acheter des petites voitures compactes de type européen, mais toujours sans le changement de vitesse manuelle, ils vont les acheter au Japon.
Et donc, l'exportation de la voiture européenne, ça ne marche pas très bien malgré le choc pétrolier, c'est ça ce que vous voulez dire?
Si, ça marche. Mais l'exportation elle-même, les Américains vont en fait s'approprier un type de voiture européenne, mais fabriquée au Japon selon leurs propres critères. Et surtout, les grands constructeurs américains vont mettre des capitaux dans les usines japonaises de façon à alimenter eux-mêmes leur propre marché en voiture européenne. En fait, il n'y a jamais eu de vente vraiment directe d'une voiture de type américain en Europe, sauf les quelques moments après-guerre où il y a des fortunes qui veulent se montrer, ou bien de voitures européennes aux États-Unis. Ça ne marche pas.
Et qu'est-ce que, à l'inverse, nous, Européens, avons emprunté à la civilisation de l'automobile américaine? Est-ce qu'on a pu en tirer parti?
Alors, si on parle en termes de civilisation, pour l'opposer à la culture, il me semble que la civilisation qui irradie à partir des États-Unis, c'est profondément un dispositif économique qui a plusieurs caractéristiques fortes. La première, c'est le modèle de production, c'est l'organisation de la chaîne, qui est empruntée par Ford aux abattoirs de Chicago dans les années 1910. Et puis, c'est l'automobile comme objet de consommation, objet fétichisé, qui substitue à ce qui serait une vraie liberté, une pratique de la liberté automobile, du déplacement.
Mmh. Et on cherche à s'attacher la fidélité d'un client pour la vie, n'est-ce pas?
Alors ça, c'est une autre chose que les constructeurs européens ont emprunté directement aux Américains. C'est l'idée qu'il y a une gamme de voitures qui permet de s'attacher à la fidélité des clients d'une marque au fur et à mesure que l'employé monte les échelons dans sa société et qu'il a une surface sociale de plus en plus grande, eh bien, les constructeurs américains lui offrent des voitures qui sont de plus en plus spectaculaires.
Et alors, vous parlez de spectaculaire. Nous avons eu une voiture spectaculaire, c'était la DS19. Parce que la voiture est un objet matériel, mais elle mobilise un imaginaire. Et on est forcé là de se référer à un texte de Roland Barthes dans Mythologie. Je crois que c'est 1957, n'est-ce pas? La DS19 qui va être celle du général de Gaulle, qui va être celle emblématique d'une culture nationale. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette DS19? Et est-elle transposable? Enfin, Barthes parle d'une cathédrale, les cathédrales ne peuvent pas se transposer, mais comment vous voyez le moment DS19?
Il a deux caractéristiques, le moment DS19. Il a Le moment national, c'est effectivement la voiture des cortèges officiels, la voiture du général de Gaulle.
La voiture du pouvoir.
La voiture du pouvoir, c'est aussi une voiture qui s'inscrit dans une culture technique européenne. On parlait tout à l'heure des représentations associées aux voitures. En Europe, et en France en particulier, on a du goût pour la voiture qui n'est pas fondée seulement sur ce à quoi on va venir tout à l'heure, qui est l'objet de consommation parfait et qui fait rêver. Il y a une culture technique. Les citroënistes, c'est pour des raisons techniques qu'ils achètent tout le temps des Citroën. Peugeot a une image bourgeoise et coloniale à cause de son système de refroidissement en particulier. Donc les Renault vont avoir une image populaire. Donc il y a des éléments qui sont directement rattachés à des cultures nationales. Et la DS, elle a d'une certaine façon cette dimension nationale. Mais elle a aussi une dimension
esthétique
qui l'inscrit là, dans la civilisation de l'objet de consommation. Et en fait, on cite toujours la première partie du texte de Barthes qui dit « c'est une voiture comme une cathédrale, donc très nationale ». Mais en fait, à la fin, il explique pourquoi elle polarise l'attention des visiteurs du salon. C'est en fait sa beauté comme objet, le fait que les vitres sont parfaitement serties, qu'elle est totalement lisse, et il en fait un objet de consommation fascinant, un fétiche, et ça s'inscrit pour lui dans une critique de la société de consommation qui, elle, appartient à la civilisation américaine dont on parlait.
Disons plus qu'un ustensile, c'est une œuvre d'art où se cristallise un style, et chaque culture a son style. Mais on parlait tout à l'heure de l'espace mouvement, qui est l'espace américain et qui appelle l'image mouvement, le cinéma. Et il y a, on pense tout de suite, à une sorte d'harmonie naturelle entre le monde de l'automobile et le monde cinématographique. Il suffit de penser, par exemple, la fameuse séquence de Bullitt, n'est-ce pas, où on voit un acteur américain, rappelez-moi son nom, Catherine.
C'est Steve McQueen.
Steve McQueen dévalant les rues de San Francisco dans un mélange, disons, de machisme, de dangerosité, d'excitation, enfin, fameuse séquence. C'est vrai qu'il y a, disons, la civilisation de l'image rencontre la civilisation de l'automobile parce que une automobile appelle l'image, parce qu'elle a un côté évidemment spectaculaire, vous le disiez tout à l'heure, mais aussi érotique. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus de cette aura particulière donnée par le cinéma ou par la publicité à l'automobile ?
Mais revenons à l'idéal type de la voiture américaine dont nous parlions au début. Je pense à la Cadillac Rose. L'automobile américaine des années 50 par excellence, c'est cette belle américaine aux ailerons démesurés qui incarne l'extravagance du rêve américain. Elle a en fait été dessinée, cette voiture, par des designers automobiles qui travaillaient tout à côté d'un hangar où on avait entreposé un avion-fusée développé pour la guerre et jamais mis en service. Elle a vraiment, elle est inscrite dans cet imaginaire explosif du déplacement violent. Mais c'est aussi
un symbole de réussite sociale peut-être,
ou symbole de réussite sociale et d'extravagance. Par exemple, Elvis Presley possédait plusieurs Cadillac roses, et on a recréé le rose de la Cadillac d'Elvis Presley. J'ai l'impression qu'on le trouve un petit peu dans la voiture de Barbie aujourd'hui.
Peut-être, mais alors là, vous me rappelez un souvenir personnel. Oserais-je en faire la confidence? Moi, j'ai découvert le rêve américain lorsque j'étais tout enfant et que dans la rue où j'habitais, la rue de Lübeck dans le 16e, j'ai vu arriver une Cadillac rose décapotable du champion mondial de boxe Sugar Ray Robinson, qui avait loué un appartement à côté de chez nous. Et j'étais absolument sidéré, d'abord parce que Sugar Ray Robinson avait toujours de très belles femmes dans sa voiture, et parce que je n'avais jamais vu une voiture comme ça. Et ça a été pour moi, disons, l'intrusion d'un autre monde dans notre petit monde bourgeois étriqué avec nos petites Aron, nos petites Simca, nos petites Renault. C'était tout d'un coup un rêve qui se faisait. Et je me souviens que c'était tout de même un noir qui conduisait cette voiture rose et qu'on avait pratiquement jamais vu. Bon, revenons, soyons sérieux.
Non, je voudrais vraiment reparler de ce rapport de la communauté noire avec les Cadillacs. En fait, elle occupe vraiment un moment central dans l'émancipation de la communauté noire. Il y a un article de la revue Ebony, par exemple, qui dit au début des années 50, en fait, en 1949, l'article est intitulé « Why Negroes buy Cadillac ?» Pourquoi est-ce que les Noirs achètent des Cadillacs ? Et la réponse de cette revue, qui est une revue de la communauté, est parce qu'ils veulent eux aussi montrer qu'ils peuvent être des Américains de première classe, first class Americans. Et ensuite, les films de la Black Exploitation, c'est-à-dire ces films faits par des Noirs, pour un public noir, et qui va systématiquement reprendre tous les stéréotypes négatifs pour les transformer en les exagérant en revendication d'une extravagance qui est une revendication du droit à exister, eh bien ils vont se servir des voitures et notamment des Cadillacs en les customisant de façon étonnante, en mettant des fourrures sur les sièges, en mettant des jantes blanches, en les peignant de couleurs insensées. Et ils vont, ces voitures, ces Cadillacs customisés vont devenir un emblème du ghetto, mais du ghetto triomphant.
Alors, du ghetto triomphant, vous me faites penser à un passage capital dans le cinéma entre le film de gangster noir et blanc qui fait référence, si vous voulez, au gang des tractions avant, années 50, vient la nouvelle vague. La nouvelle vague est américaine. Elle revendique, le flashy américain, et dans Le Mépris de Jean-Luc Godard, il y a une séquence ironique, mais on n'est pas si sûr, où on voit une superbe, je crois, Cadillac décapotable avec Jack Palance au volant et Brigitte Bardot. Et là, il y a, dans un moment très coloré, exit la traction avant, la vieille traction avant de nos films noirs des années 50 avec Jean Gabin ou Lino Ventura au volant, et nous rentrons dans le rêve américain avec Le Mépris de Godard. Et donc, on voit à quel point l'automobile véhicule avec elle un système de valeurs.
Mais on peut prendre un autre exemple proche de la Nouvelle Vague ou dans la Nouvelle Vague. C'est Jean-Louis Trintignant dans Un homme et une femme. Il remonte pour rejoindre son amoureuse jusqu'à Deauville en partant du sud de la France. Dans quoi ? Eh bien, dans une Ford Mustang qui est exactement la Ford Mustang de Bullitt. C'est-à-dire, cette Ford Mustang, c'est la jeunesse, c'est la virilité cool qui est importée de Steve McQueen et qui est incarnée en France par Trintignant.
Pour impressionner Anouk et Anouk Aimée, il n'en fallait pas moins. Trintignant a bien fait.
Et j'ai trouvé un petit passage sur Internet. Oui. Elle a été rééditée. Et donc, on voit un critique automobile, ça existe, qui dit oh, « Cette voiture, elle exhalait la puissance et l'insouciance avec une esthétique ravageuse. Les limitations de vitesse, personne n'en parlait. » Mais il dit aussi qu'elle tient pas la route sur les routes françaises. « Ne l'achetez pas, dit-il. Elle ne tient pas la route sur nos départementales sinueuses et mieux vaut ne pas essayer de se garer en ville. »
Donc alors, les belles américaines en Europe, c'est comme une greffe qui ne prend pas. Mais pas dans notre cinéma, parce qu'on a parlé de Godard. Moi, j'ai envie de vous parler de la Dolce Vita aussi, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de voitures et de très belles femmes ensemble dans la Dolce Vita.
Et elles signalent à peu près la même chose. Mmh. En gros, il y a les voitures des Italiens. Ce sont toutes des voitures italiennes ou des anglaises pour la jeunesse dorée italienne. Et puis, les voitures de soit des Américains à Rome, soit des hommes d'affaires et des milieux d'affaires qui s'associent aux nouveaux vainqueurs pour faire des affaires. Et la première qu'on voit apparaître à l'écran, c'est une Thunderbird. Si je me rappelle bien, une énorme américaine. Ils sont garés près du Tibre. Et il y a la prostituée qui se penche et qui retrouve la voiture. Et qu'est-ce qu'elle dit à son ami? Elle dit « Oh, viens voir, c'est pas une voiture, c'est un appartement. »
Oui, oui. Mais il y a dans la voiture donc une image de virilité, mais donc agressive, mais on a l'impression que la voiture américaine la rend un peu cool, cette un peu, comment dirais-je, fluide. En tout cas, c'est un curieux mélange entre, comment dirais-je, un côté relax, qui est lié peut-être au fait qu'il n'y a pas de changement manuel, hein. Relax, il n'y a pas des changements considérables. La conduite à l'italienne, c'est tout de même tout un monde. La conduite à l'américaine, c'est l'opposé. C'est soft, c'est doux, c'est un peu amorti.
On le voit très bien dans le convoi qui ramène Anita Ekberg, toujours dans la Dolce Vita, de l'autoroute. On a Anita Ekberg, l'actrice internationale, on a les producteurs américains, et ils sont dans des grosses américaines, une Ford Fairlane 500 Town, par exemple, ou bien une Ford Zephyr convertible, vous voyez, des décapotables, avec calandre en forme de bouche de requin, c'est assez agressif. Et puis autour d'eux, il y a les paparazzi dans des petites italiennes. Et sur la toute petite route où ils sont bloqués par un troupeau de moutons, je pense pas que le réalisateur ait fait ça par hasard, eh bien, les petites voitures italiennes, les doubles en passant sur les bas-côtés, c'est tout à fait un autre type de conduite. Et puis, en question de sensualité, au moment où Mastroianni va enlever Anita Ekberg dans une voiture qui est une Studebaker Commander 1954 décapotable, la caméra s'attarde longuement sur la courbe du pare-brise.
Mmh, mmh. Oui, donc on peut être à la fois macho et cool. Il y a une symbolique sociale, évidemment, dans chaque profil de voiture. Il y a même une affirmation d'une posture dans la société. Je pense par exemple à la deux chevaux du prof dans Les Amants de Louis Malle, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas afficher une certaine marginalité? Non, moi je ne monte pas dans une voiture américaine. Je suis à côté, je suis un télo, c'est-à-dire je me démarque de la grande bourgeoisie. Enfin voilà, c'est un souvenir qui me revient de ce beau film de Louis Malle où la deux chevaux m'avait impressionné, parce que c'est un type en deux chevaux qui, emmène, détourne du droit chemin une grande bourgeoise. Je me souviens également de Fabius arrivant en deux chevaux à Matignon. C'est afficher une certaine originalité, un parti pris de « on est différent », voilà. Et on est bohème, on est bourgeois bohème. Est-ce que je me trompe dans cette symbolique sociale?
Pas du tout.
Est-ce qu'elle existe aux États-Unis aussi?
Alors, elle existe, on va la trouver aux États-Unis dans les séries télévisées qui vont succéder au cinéma comme moyen d'exprimer l'imaginaire collectif. Et je prendrai deux exemples. Le premier, c'est de la série Columbo, qui commence en fait au début des années 70. Et Columbo, c'est l'anti-homme d'affaires américain par excellence. Ce n'est pas la virilité triomphante. D'ailleurs, il met toute son intelligence à faire tomber, à mettre en prison l'homme américain qui a réussi.
Le pauvre contre le riche.
Ouais, exactement.
Le pauvre qui a l'air minable, mais il faut se méfier.
Il faut se méfier. Eh bien, qu'est-ce qu'il a comme voiture? Il a le contraire de la voiture de la réussite américaine. Il a une Peugeot 403 cabossée. Et non seulement c'est une petite voiture européenne, souvent elle tombe en panne dans les moments critiques. Et même il trimballe un énorme chien qui laisse des poils partout. Donc, il insiste sur le fait que c'est l'anti-voiture américaine. Et vous retrouverez ça plus tard dans la série Mentaliste, où le héros Patrick Jane veut montrer en permanence qu'il n'est pas dupe des codes de la société mainstream américaine. Et dans quoi il roule? Il roule dans une DS20, puis une DS21 bleu clair. Pas de meilleur moyen de dire « je ne veux pas être un mâle dominant américain
». On se démarque en changeant de marque, pour ainsi dire. On se démarque socialement par le type de voiture qui est une forme d'affichage aussi social et psychologique.
Et pour en terminer avec les voitures,
ouais.
La comédie française des années 60 le dit explicitement dans deux comédies. La première s'appelle La Belle Américaine. Et La Belle Américaine, c'est pas une femme, c'est une voiture qui arrive par hasard dans les mains d'une famille populaire française. Eh bien, tout le film explique qu'ils n'en ont au sens propre rien à faire. Elle n'a pas de place dans leur vie, dans leur esthétique, dans leur économie. Et ils vont finir par la transformer en voiture de marchand de glace. C'est-à-dire la faire descendre de son piédestal.
C'est notre voiture.
Notre voiture.
Mais tu vas pas pleurer.
Tu l'as acheté?
Oui.
Tu l'as payé?
Ben, il a bien fallu. Oh, dis donc, elle est... Oh. Dis donc, tu vas pas nous faire voir que t'as payé cette voiture-là 50 000 balles, hein?
Non, 45 000.
Quoi?
J'hésitais un peu, alors elle m'a rabattu 5 000 francs. Oh la vache!
Eh ben, il y en a des boutons.
Mais non, ben, il est cocu, ton beau-frère, hein.
Elle est belle, hein.
Ah oui.
T'es content?
Je sais pas.
Comment tu sais pas? Ben, je me mets à sa place. Je me vois pas inscrire un bahut pareil dans mon budget. Rien que l'assurance.
Elle est payée pour un an.
Ben, et l'essence?
Ben, je viens d'en faire pour 1000 francs.
Mais de quoi faire le tour du pâté de maison?
Elle doit avoir le gosier drôlement en pente, hein. Oh. Ça boit combien, un truc comme ça?
Ben, ça boit quand ça roule, sinon. Ouais, ben, y a pas que l'essence.
Ah oui, ça y a les réparations, hein.
Et les pneus?
C'est pas possible.
Eh ben, si c'est pas possible, on la gardera pas. Si c'est pas une voiture pour nous, vous avez sûrement raison. Moi, je sais pas, moi, je croyais te faire plaisir, je croyais vous faire plaisir à tous. Moi, je pensais qu'on allait tous monter dedans et puis faire un petit tour pour l'essayer.
Mais pourquoi ça serait pas une voiture pour nous?
Quoi? Si nous l'avons payé 45 000 francs, ça regarde personne.
On pourrait quand même faire un petit tour.
Un petit tour?
Oui.
Tout de suite?
Oui.
Tous ensemble?
Ben, si on tient tous.
On sera tout petit.
Vous pouvez déjà disposer de ma place.
Alors, on y va?
Oui. Je rentre ma glace, elle m'apprend. Oh, c'est chouette.
Oh, c'est d'adour. Ouais.
France États-Unis, un commerce équitable. Régis Debré, Catherine Berthaud-Lavenir.
Catherine Berthaud-Lavenir, je vous propose maintenant de quitter l'imaginaire pour affronter le réel. Cessons de parler esthétique et sociologie, parlons politique. J'ai toujours pensé en tant que médiologue que chaque véhicule a son inconscient politique, disons, modèle une certaine vision du monde. Alors, pour aller vite, le train est social-démocrate. Il suppose des horloges et un État central maître des horloges. Le train est collectif. Le train est socialiste. La voie d'eau et le canal, évidemment, c'est écolo. Hein, c'est, voilà. La bicyclette aussi, c'est, disons, l'Indien dans la ville, un certain individualisme fantasque. Et l'automobile, vous allez me dire si je me trompe, l'automobile, c'est un changement dans notre vision du monde. C'est individualiste et libéral. Je vais où je veux, quand je veux. Certes, en respectant les panneaux de signalisation, mais c'est l'affichage d'un choix individuel à tout moment possible. possible. Et quand je dis passer au réel, je dis l'organisation du territoire. Les effets de l'automobile sur l'organisation de l'espace, de la ville, des paysages même périphériques, ça pose problème, non? Et comment voyez-vous aujourd'hui, je dirais, les rapports de la ville et de l'automobile en France et aux États-Unis?
Revenons sur le modèle américain. Entre 1945 et 1960, puisqu'il faut être précis, 30 millions d'Américains partent s'installer dans les nouvelles banlieues. 30 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 1950, l'État fédéral a décidé qu'il allait financer ou garantir le financement des highways, des autoroutes. Alors que l'État fédéral ne s'était pas intéressé du tout au financement des chemins de fer, qui étaient restés privés, Rockefeller, ni au financement des tramways.
Les chemins de fer n'intéressent guère les pays qui font profession de libéralisme.
Donc, il y a là une sorte de projet qui va s'inscrire dans le territoire. Les autoroutes américaines rentrent dans le cœur des villes. Elles rendent possible le fait pour la classe moyenne de s'installer dans des nouvelles banlieues où, en même temps, il y a des systèmes de prêts très pour bâtir des maisons ou faire des lotissements extrêmement favorisés, garantis par l'État. Et on transforme l'économie de la ville américaine, puisque à côté de ces autoroutes et de ces grands lotissements, de ces grandes zones résidentielles, on va faire mettre en place des centres commerciaux, des malls, qui rassemblent beaucoup de boutiques avec autour d'énormes parkings et souvent un cinéma et pourquoi pas un driving. Et ça, c'est un modèle de ville qui n'arrivera que beaucoup plus tard en Europe, si même il arrive.
Oui, le mall commercial est comme un espace privé alors que la place du marché est un espace public. Je note cette petite différence tout de même entre deux modes de consommation quotidienne.
Et on parlait tout à l'heure idéologie. Il y a un certain nombre d'historiens américains qui le disent clairement. Cette idéologie de l'automobile comme instrument de la liberté individuelle, elle n'est pas apparue par hasard. Elle est instrumentalisée au sens politique ou construite. D'abord, dans un premier temps, avec la voiture américaine des années 30, qui est une sorte de compensation à l'aliénation du travail à la chaîne et à la réorganisation du travail industriel. Et puis, le grand boom, l'organisation totale des territoires urbains en fonction de l'automobile des années 50-60, qui là est une réponse, disent-ils, à la réorganisation des grandes entreprises, qui là aussi fait basculer le statut de l'employé vers un statut d'exécutant, beaucoup plus surveillé, contrôlé par des modalités précises d'exécution du travail qu'auparavant. Et puis on est en pleine guerre froide, et ça va être l'emblème, cette mobilité automobile, de la liberté du citoyen américain, opposée à ce qui est vu comme la non-liberté du citoyen des pays de l'Est.
La non-liberté de ceux qui n'ont pas leur voiture et de ceux qui sont forcés de prendre le train pour se déplacer.
Et puis il y a des oubliés dans l'histoire. Les habitants pauvres des centres-villes américains, paupérisés par le départ des classes moyennes, qui vont voir la décadence de tous les services publics qui desservent les centres-villes américains.
Mais aux États-Unis, il semble tout de même que l'automobile domine. Elle est dominante par rapport à l'espace urbain, par exemple. Oui. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la France? Est-ce que la France est américanisée au point de, elle aussi, réguler, modeler l'espace urbain sur le flux automobile? Autrement dit, est-ce que l'urbanité à la française peut résister au déferlement des libertés individuelles?
Il y a plusieurs époques, mais globalement, Paris, par exemple, qui est l'archétype de
problème
la ville.
Problème de la voie sur berge, toujours cité.
Paris, en fait, Mathieu Fleuneau, qui est l'historien de la circulation automobile à Paris, le dit, Paris résiste à l'automobile. Alors, on cite toujours cette phrase du président Pompidou, qui a été dans un discours devant ceux qui étaient en train de réorganiser la région parisienne, il dit, Paris doit s'adapter à l'automobile. Mais en fait, la citation est tronquée. Derrière, il dit, et l'automobiliste doit s'adapter à Paris. Et ce qu'il propose comme adaptation pour l'automobile et Paris, c'est l'urbanité du conducteur, sa civilité, sa capacité à conduire en respectant les autres et les piétons.
Ce que vous dites me fait penser à un aspect de Georges Pompidou assez méconnu. Au fond, il y avait en lui une sorte de lutte entre l'aspiration à la modernité et un certain attachement aux traditions. C'est donc vraiment un président de transition. L'aspect méconnu, c'est une lettre qu'il a écrite au directeur de l'aménagement du territoire, où il s'élève véhémentement contre l'abattage des arbres le long des routes départementales. Il veut maintenir la petite route qui sent la noisette et bordée de platanes. Et donc, il y a fait cet homme tout de même qui fait ce banquier inquiet de moderniser à tout prix la France, constructeur du centre Pompidou, etc., fait aussi un éloge de l'arbre, donc un éloge d'une certaine ruralité. Mais il y a toujours, cela dit, un imaginaire parfois drôlatique attaché à la voiture.
C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous oublie, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ben, je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus. Oh là là,
c'est pas grave,
vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi?
Eh ben, un piéton, et puis
voilà. Hein? Mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie.
Mais écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite.
Mais je ne suis pas pressé, moi.
Et alors, moi, je suis pressé, voilà. Voilà, c'est là. C'est fini, oui.
Mais je vous en prie.
Alors, voici ma carte. Hein? Voici ma carte, mon agent d'assurance vous contactera. Voilà.
Ah, okay. Vraiment? Il y en a qui marchent pas de culot. Avec sa grosse bagnole. Léopold Sarroyan, président directeur général. Je m'en fous, moi!
Eh bien, dites-moi, Catherine, ça se bagarre drôlement dans cette séquence. Oui. Vous pouvez nous dire ce qui se passe?
D'un seul coup de mantelet, Louis de Funès a détruit la deux chevaux de Bourvil, qui est un petit commerçant qui part bien tranquillement en vacances. Et Bourvil, qui improvise, je pense, l'insulte en grommelant, il le traite de quoi? De capitaliste.
Donc, l'automobile, malgré sa démocratisation, n'épargne pas tout à fait, n'enlève pas tout de la lutte des classes. Quelque chose reste. Mais dites-moi, si en France, l'automobile, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, ne s'est pas complètement emparée des villes, elle s'est emparée des paysages via l'autoroute. Il y a tout de même eu l'effet induit considérable de l'automobile, c'est ce bouleversement de l'espace rural par l'autoroute.
L'autoroute, en fait, c'est une invention européenne. Les premières autoroutes, c'est Mussolini. Les années 20, en Italie, une autoroute qui part de Milan pour aller vers les lacs italiens. Et puis dans les années 30, c'est les grands travaux de Hitler et les autoroutes allemandes qui sont peut-être des enjeux stratégiques, mais qui sont aussi des moyens de faire voir le paysage allemand. D'ailleurs, on fait très attention en Allemagne à aménager des aires de stationnement à partir desquelles on peut voir le paysage de la patrie développé devant soi.
Avant l'esthétique, il y a tout de même le souci stratégique, un peu comme les grands boulevards de Napoléon III, qui étaient destinés à conjurer les barricades et à permettre le passage des troupes, éventuellement des canons arrière-pensée d'Haussmann, qui n'était pas tout à fait absente. Là, il y a tout de même, dans l'imaginaire fasciste, effectivement, un spectacle à développer, un signe de modernité à exhiber, mais il y a aussi une petite arrière-pensée militaire. On peut faire passer les tanks par les autoroutes, pas par les petites routes. Mais enfin, c'est pas le cas français. Alors, comment non. arrive l'autoroute en France?
Elle est pensée à la fin des années 30, mais en fait, elle est considérée comme pas démocratique. Et politiquement, elle a du mal à s'imposer. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a un magnifique réseau de routes nationales qui portent bien leur nom, qui pénètrent dans les villes. Alors évidemment, ça va faire des embouteillages. Il y a toujours un pont à passer, une cathédrale à contourner. Mais on n'arrive pas à obtenir des pouvoirs publics qui donnent une priorité à l'autoroute avant quoi ? Ben avant l'après-guerre, où là, ça fait système. C'est-à-dire qu'on emprunte le système américain, la voiture automobile comme objet de consommation, de désir et de plaisir, et pour la faire rouler, mais il lui faut des autoroutes. La première, c'est une autoroute un peu aristocratique. Hein,
celle qui va vers l'ouest.
Celle qui va vers Deauville.
La fameuse autoroute de l'ouest qui va vers Versailles. Et vers Deauville, ensuite.
Et vers Deauville. Oui. C'est ensuite des autoroutes qui sont, la de seconde descend vers le sud, et va doubler la fameuse Nationale 7, surtout désengorger la traversée des villes. Et là, c'est une expérience différente du territoire, parce que la Nationale, elle va de petite ville en petite ville. L'autoroute tranche dans le paysage.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, en chantant fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7.
La N7 est devenue comme une sorte d'emblème de la francité, un peu comme la route 66 aux États-Unis est devenue un peu l'emblème de l'espace américain.
Là, on voit les deux cultures du déplacement qui sont complètement différentes. Je ne reviens pas sur la National 7 et son côté un peu kitsch, ces petites...
Un peu franchouillard, un peu ringard.
Ces petites stations-service, ces bons restaurants, on s'arrête à Tournus, chez Greuze.
La France des années 40 et 50. Même.
Voilà, qui descend en automobile sagement. Tandis que la route 66, c'est autre chose. Revenons à un texte fondateur, La route de Jack Kerouac. Mm-hmm. Ça commence mal. Il commence par partir au nord, à partir de New York, pour rejoindre la route 66. Mais la route 66 au nord de New York, c'est une espèce de route qui conduit nulle part. D'ailleurs, personne ne le prend. Il est obligé, piteux, de rentrer à New York et de prendre vraiment la route 66, là où elle a du sens dans l'espace américain, où elle traverse les grands espaces américains.
La destination étant le Mexique, je crois.
Alors, plusieurs destinations, Denver, la Californie, et puis à la fin le Mexique. Mais il y a dans Jack Kerouac, il y a trois sur la route, il y a trois expériences différentes de la route américaine. La première, c'est une expérience qui est pas très américaine. De Denver à Chicago, ils roulent à toute allure, ils doublent tout le monde. D'ailleurs, on les prend pour des gangsters. C'est pas vraiment américain. La seconde, ils sont pris comme en stop, avec plein de gars sans feu ni lieu, par des jeunes paysans de l'Arkansas qui vont acheter du matériel agricole en Californie et qu'ils ramènent dans le centre des États-Unis. Tant qu'à faire, ils prennent les gars de la route. Donc ça, c'est vieux. C'est l'image des années 30. Mais la vraie image d'après la guerre, c'est celle où tous ces jeunes gens, dans une grosse voiture, descendent tranquillement vers le Mexique, ils respectent la limitation de vitesse, ils dorment dans la voiture, ils se racontent des histoires. Puis quand ils arrivent dans la plaine d'Abilene, Abilene a des lumières au loin, ils n'y arrivent toujours pas. Plus ils roulent, toujours Abilene est loin. Ça fait prendre, c'est très bien écrit évidemment, ça fait vraiment prendre conscience de façon très sensible de cette immensité de l'espace américain.
La route française, elle est étroite, elle est sinueuse, elle est engorgée, alors que l'autoroute ou la 66 américaine évoque quelque chose de coulant, de fluide, de très long, mais de facile. Et l'autoroute, évidemment, facilite la circulation. Mais nos routes nationales, elles sont gratuites. Et l'autoroute, elle est payante. Depuis quand et pourquoi ?
Alors, fin des années 50, on voit bien en France qu'on n'arrivera pas à financer sur fonds publics ces autoroutes. Donc, on crée, ce qui était très fréquent dans ces années-là, des sociétés où l'investissement privé est plus ou moins garanti par la puissance publique. Et ça va faire une construction rapide d'autoroutes dont le prix va être accepté par les Français. Et il y a vraiment des enquêtes qui sont faites dans les années 60, fin des années 70, début des années 80. On demande aux Français s'ils sont hostiles aux autoroutes. Et en fait, non, 8% est hostile, c'est tout.
Vieille tradition du péage. Hein,
tradition pour, du péage.
Pour le pont. Pour...
Peut-être idée aussi, on va vendre l'autoroute sur la sécurité. Au début, on pouvait rouler très vite sur les autoroutes. C'était des routes un peu luxueuses. C'était d'ailleurs les raisons pour lesquelles on ne les avait pas adoptées dans les années 30. C'était un endroit où les grosses voitures pouvaient ne pas être gênées par le reste du vulgum pecus. Et puis, peu à peu, on va basculer vers une circulation de masse où la sécurité prime.
Et donc, la limitation de vitesse. Parce qu'il faut tout de même parler du carnage du week-end de la Pentecôte. Hein. C'est tout de même un thème fondamental pour tout gouvernement qui se respecte, c'est de faire baisser les accidents de la route. Et c'est frappant que la vitesse est très lente sur les routes américaines, alors qu'elle était beaucoup plus rapide chez nous. Et ce ralentissement général est paradoxalement, dans une société de la vitesse, peut-être un effet involontaire d'américanité, sécurité d'abord.
Oui, dès l'origine, sur les autoroutes américaines, la vitesse est limitée à 120 km/h à peu près.
C'est-à-dire 90 miles, voilà. 90 miles.
Alors, en réalité, ça change beaucoup selon les lieux, mais vous êtes sûr que si vous ne respectez pas la limitation de vitesse, vous allez voir arriver une voiture de shérif, et de shérif local, qui va vous courser, vous arrêter, et éventuellement vous mettre dans la prison locale. Donc, on respecte la limitation de vitesse aux États-Unis dans les années 50, 60, à une époque où, en France, l'autoroute est vraiment pas limitée, on peut y rouler très vite. C'est vraiment une différence culturelle importante.
C'est-à-dire qu'il y a ce côté sportif de la conduite que nous disons à l'italienne, le côté, oui, un peu machiste, alors que paradoxalement, on est plus familial côté américain. La voiture, c'est un peu le home mobile, le mobile home. On a les enfants, on a la femme. My car, my castle, enfin, ma voiture, mon petit château.
Une Dans les automobiles américaines, il y a des endroits où poser des gros gobelets de café, pas dans les voitures européennes. Et puis, aux États-Unis, il y a le driving, cet endroit où on peut aller au cinéma en voiture avec les enfants.
Et on peut flirter sur la banquette arrière, si j'en crois le cinéma américain.
Elle est assez, assez vaste pour ça, essayer de flirter à l'arrière d'une de chevaux.
Et dites-moi... ce qu'on appelle le rurbain, la France périphérique, comme on dit aujourd'hui, elle dépend beaucoup plus de l'automobile que, disons, les habitants des centres-villes. Est-ce qu'on peut parler là d'une France périphérique américanisée, avec ses supermarchés, avec ses parkings, avec l'étalement pavillonnaire? C'est aussi une production d'automobile, cette France-là.
Alors, il y a deux France périphériques. Il y a celle des... bord des grandes villes, autour de Rungis, qui imite le modèle américain de grands ponts autoroutiers, d'échangeurs, de création de ce qu'on appellera, ce géographe français appellera des non-lieux, ou ces hyper-lieux du géographe.
Voire des anti-lieux, c'est-à-dire
des endroits où
tout ce qui n'a pas d'histoire ni de singularité, que ce soit un supermarché ou une station-service.
Et puis, les espaces très particuliers de la rurbanité, où autour d'un village se sont mis en place des lotissements, 40 ans, 50 ans après les États-Unis, souvent beaucoup plus modestes. Les maisons sont plus petites, les places de stationnement sont moins grandes, et on y va, on en revient, on va, comme aux États-Unis, au centre commercial.
Et on ne peut rien faire sans l'automobile.
Et on ne peut rien faire sans l'automobile. Et on doit avoir deux automobiles quand les femmes travaillent. Et les femmes passent beaucoup de temps à conduire leurs enfants à diverses activités.
Alors qu'on peut habiter le centre-ville sans automobile.
Et que ces centres-villes, en revanche, se désertifient peu à peu. C'est le problème dramatique de la France, des espaces moyens d'aujourd'hui.
Se désertifie ou se gentrifie, c'est-à-dire deviennent l'espace bobo où on peut aller à vélo ou prendre le bus. Grand privilège de l'urbain aujourd'hui que le rurbain n'a plus. Le rurbain est dépendant de sa bagnole, quoi. Voilà. On ne peut pas vivre dans les environs d'une grande ville si on n'a pas sa voiture, voire même ses voitures, comme vous dites.
Alors là, on est vraiment dans le basculement entre une civilisation de l'automobile dont le centre serait américain, qui irradierait dans le monde entier, qui diffuserait le même modèle. Et on a l'impression que cette organisation autour de l'automobile, de nos espaces périphériques, fait partie de ce modèle de civilisation. Mais il y a quand même des points de résistance qui sont les interprétations locales, vernaculaires de cette civilisation. Et là, on en a un exemple très concret, très matériel. C'est le giratoire où la priorité est à la voiture qui est engagée déjà sur le giratoire. Alors, ça ne vient pas du tout des États-Unis, en fait, ça vient d'Angleterre. C'est pour ça que c'est arrivé en France, pas la Bretagne. Mais il y en a aujourd'hui des dizaines de milliers en France.
N'en reste pas moins que les abords des villes sont tous identiques, semblables les uns aux autres, difficilement localisables, en ce sens un peu indifférenciés à l'américaine. Moi, j'étais à l'époque pour retrouver les portes des villes, l'espace symbolique, n'est-ce pas, pour marquer, disons, une différence entre la ville et la campagne. Mais ça ne se fait plus. Et nous avons maintenant des abords urbains terriblement homogènes.
Même les portes des villes, surtout des villages, sont aujourd'hui marquées par le giratoire d'entrée du village. Et il s'est développé tout un art vernaculaire, puisque aucune grande institution n'a pris la main. C'est pas les beaux-arts qui décident pour savoir ce qu'on va mettre sur le giratoire d'entrée du village ou de la petite ville.
Bon, écoutez, Catherine, nous sommes parisiens, ne tournons pas autour du pot, parlons de ce qui fâche, la voie sur berge. Quelle est votre position ?
Ah, mais je déteste la fermeture de la voie sur berge. Je la déteste pour plusieurs raisons.
Comment l'interprétez-vous ?
Je l'interprète méchamment, comme la continuation d'une fermeture de la ville qui devint un espace d'utilité pour ses habitants, c'est-à-dire ceux qui y vivent tout le temps, et ses visiteurs, les touristes. Quand elle a été ouverte, ça faisait partie du plan pour développer l'automobile dans Paris. On avait le sentiment que c'était économiquement absolument obligatoire et que on allait vers l'étouffement. Il y a une espèce d'imaginaire de l'étouffement de la ville. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé des grandes voies, mais on n'a pas taillé dans le tissu urbain. C'était ce que voulait faire le plan voisin des années 30. Mmh. Mais là, les élus locaux ont poussé des hurlements épouvantables. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'est glissé ? On s'est glissé le long de la Seine, puisque c'était déjà des quais, des endroits où on déposait du matériau.
Pas seulement, on pouvait pêcher à la ligne, voire même nager dans les années 40.
Ou bien on a utilisé les fortifs pour le périphérique. Mmh. Les autoroutes se sont arrêtées aux portes de Paris. Et quand il a fallu faire une nord-sud, elle s'est arrêtée. On n'a jamais réussi à tailler dans le cœur de Paris.
C'est juste. Alors, la fermeture aujourd'hui des voies sur berge à l'automobile, c'est une résistance vernaculaire, locale.
C'est une résistance vernaculaire, mais je la dirais postmoderne. C'est pour le bénéfice des riches habitants du centre-ville, des touristes qui voient la ville comme un spectacle. Mmh. Et on n'a pas redonné une fonction urbaine traditionnelle aux voies sur berge. On n'y dépose pas, du moins dans le cœur de Paris, des parpaings ou du bois. Mmh. Non, on en a fait une sorte de parc d'attractions, de lieux de loisirs qui miment une espèce de loisir urbain nouveau.
Oui, oui, c'est le Paris-Plage.
Une sorte de disneyisation de ce cœur de Paris.
Alors, pour nous résumer, est-ce qu'on peut dire que la petitesse têtue du territoire français, enfin, ajoutée à l'ancienneté du tissu urbain, à l'ancienneté historique de Paris, est-ce que ça ne donne pas à notre espace difficilement automobilisable, une originalité qu'on ne peut pas effacer? Autrement dit, est-ce que notre culture peut, je dirais, se différencier de la civilisation étale de l'automobile, marquée par l'Amérique? Est-ce qu'elle peut, j'allais dire, résister ou en tout cas se maintenir?
Il y a deux pôles. Il y a cette civilisation de l'automobile qui s'impose. Mais il y a la résistance têtue des territoires, et pas seulement du territoire français. La façon d'utiliser le territoire avec l'automobile en Italie est radicalement différente de la nôtre. La façon d'utiliser le territoire des pays de l'Est européens aussi. La façon de construire des villes en Chine, ou à Taïwan aujourd'hui, avec ces autoroutes hyperboliques qui entourent des gratte-ciel d'une taille absolument monstrueuse, ça ne se trouve que là, dans ces territoires vierges de la Chine. Mmh. Donc il y a une différenciation qui est liée, paradoxalement, à la vitalité de cette civilisation automobile.
Oui, mais on peut dire que le vieux continent est fort de sa vieillesse, en quelque sorte, pour résister à l'aplatissement, à la planissement automobile du Nouveau Monde. C'est-à-dire que, comme vous le disiez vous-même, en décrivant Paris, une autoroute nord-sud, ça peut pas effacer la rue Saint-Jacques, je veux dire. Et la rue Saint-Jacques, c'est le plus vieil axe parisien, qui remonte pratiquement à l'époque gallo-romaine.
Ah, c'est le croisement du Cardo et du Decumanus.
Voilà. Et donc, au fond, est-ce que ce n'est pas bon de temps en temps d'être un peu arriéré? Pour résister, je dirais, au malheur du progrès mécanique, pour parler comme Bernanos, Valéry et d'autres, enfin voilà.
La nouvelle uniformisation, c'est celle de l'anti-voiture. Oui. C'est celle de la fermeture des centres-villes aux voitures.
C'est le retour aux vélocipèdes, finalement.
C'est le retour rêvé aux vélocipèdes.
Et plus ou moins pratiqué.
Et à mon avis, c'est complètement contraire à l'esprit de la ville. Parce que, regardez, ces boileaux, je crois, les embarras de Paris. Mmh. Qu'est-ce que ça nous raconte, ce poème? Ça nous raconte la constitution d'un embouteillage. Il y a d'abord une gros chariot avec une poutre qui n'arrive pas à tourner dans une rue trop petite. Derrière arrive un carrosse qui se renverse, puis des chevaux qui s'agglutinent, puis des curieux qui s'agglutinent, puis la marée chaussée qui n'arrive pas à passer. Donc, quelle que soit la technologie qu'on utilise, il y a quelque chose qui est complètement associé à la ville dans cette idée de l'embarras, de l'accumulation, de l'empilement. Et je trouve que l'idée de vouloir dégager les rues, les nettoyer de toute présence excessive, de toute circulation bruyante, c'est nier ce qui fait l'essence de l'urbanité.
Rien de nouveau sous le soleil parisien. Le Parisien, donc, n'habitera pas demain Los Angeles ou Chicago. Merci Catherine Berthollet.
C'était France-États-Unis, un commerce équitable, par Régis Debray. Aujourd'hui, Catherine Berthollet-Avenir. Prise de son, Philippe Mercher. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Dans ta Benz, quand tu bois ton bon passe avant le